On va un peu travailler donc à quatre et parfois s'interrompre, faire des rebonds, etc. Puisque l'idée, pour que ce soit pas trop ennuyeux, c'est pas de juxtaposer une présentation de toutes les revues qui existent de façon plate, mais d'essayer de faire un survol des différentes façons par lesquelles on peut aborder la question des revues. Et là, je vais juste commencer à introduire un contexte général, mais j'y reviendrai ensuite, mais qui me paraît important. Laure, j'ai pas pu assister à son exposé, j'avais une petite urgence à régler, mais grosso modo, Laure a introduit, je vais développer cet accès-là. Il faut bien comprendre que la revue, dans la question de la recherche en éducation, a un rôle un peu spécifique par rapport à d'autres disciplines. J'en ai parlé pour ceux qui étaient là les deux jours précédents, et je vais en reparler pour ceux qui viennent d'arriver, heureusement. Dans le monde des sciences humaines et sociales, et particulièrement dans le monde de la recherche en éducation, les ouvrages et les chapitres d'ouvrages dont on va aborder cet après-midi tiennent une place particulièrement importante et traditionnellement importante. À savoir que on peut estimer, d'après les études bibliométriques, statistiques, scientométriques, etc., qui existent dans le domaine, que dans les sciences humaines et sociales, les ouvrages tiennent une place qui va au minimum de 30 à 35% et jusqu'à 70% des productions scientifiques. Et je dirais que du point de vue de l'éducation, on se situe autour de 60% en moyenne dans les champs de recherche en éducation mesurés dans les pays qui ont une recherche un peu structurée. Bon, je vais très, très rapidement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines comme... par exemple l'histoire ou la philosophie ou les arts où là la monographie tient une place plus importante. Il y a des disciplines de sciences humaines où les revues tiennent une place plus importante, notamment évidemment en économie ou en sociologie ou en droit. L'éducation donc est un peu dans une place intermédiaire de ce point de vue là. Cela signifie, première conclusion évidente, que la revue n'est pas le principal média d'expression de la production scientifique de la recherche en éducation, du moins n'est pas le seul, même si il devient de plus en plus important. Deuxième aspect aussi à souligner, c'est que cela se situe dans une évolution, dans une dynamique, à savoir qu'on passe à travers le temps d'un passage où la monographie était de plus en plus importante à une époque où les revues sont quand même de plus en plus importantes, même si les progrès sont lents, enfin la progression est lente, mais les revues sont quand même de plus en plus importantes. Les revues et en même temps les autres types de publications que Laure vient d'aborder et que nous allons également aborder d'une autre façon avec Rémi. À savoir, à côté du modèle de la revue à comité de lecture, émergent d'autres modèles de publication, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient à comité de lecture plus ou moins atténués. On va y revenir dans la discussion. Mais pour introduire vraiment avant tout, revenir d'abord sur qu'est-ce que c'est une revue à comité de lecture. Ça, c'est quand même la base sur laquelle il faut qu'on soit tous très clairs. La revue à comité de lecture, c'est d'abord quelque chose qui est devenu le modèle dominant dans le monde scientifique, mais quelque chose de récent. Je citerai par une anecdote. Quand Einstein est parti d'Allemagne dans les années 30 pour aller aux États-Unis pour des raisons historico-politiques que vous imaginez, il a commencé à soumettre un article, il commençait à être un peu connu quand même, le monsieur, en 1933, à soumettre un article à une revue aux États-Unis. Et on lui a tout de suite dit, votre article va être soumis à l'expertise de deux lecteurs anonymes. Et là, Einstein est devenu fou furieux. Non, 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 si c'est comme ça, je retire tout de suite mon article. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, être lu par des gens anonymes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en Allemagne, à l'époque, il n'y avait pas du tout cette idée de revue d'articles par des experts anonymes. Et c'était une pratique qui était encore... à l'époque très américaine, et pour Einstein, c'était quelque part déchoir d'être lu par des lecteurs anonymes, non pas parce qu'il avait une grande idée de lui-même, mais c'était en gros comme si on vous disait aujourd'hui, bon, mais votre article, on va d'abord le mettre sur Internet en prix libre accès, et après on verra s'il est digne de figurer dans une revue ou un chapitre. Ça lui paraissait quelque chose de très très bizarre, qui ne respectait pas du tout les canaux habituels. Pour qu'un article soit considéré, il fallait qu'il soit lu par des scientifiques que tout le monde connaît, que lui-même connaissait, etc. Donc, pour tout dire, que cet aspect-là, revue anonyme par les pairs, n'était pas du tout dans les mœurs réellement à l'époque. ça a vite changé, puisqu'après, ensuite, il se trouve que Henschen avait compris le modèle, qu'il s'est soumis à la relecture par les pairs, et que ça a bien tombé, parce que les physiciens disent, alors là, je vous dis les physiciens, parce que moi, j'y connais rien, les physiciens disent qu'à cette occasion, c'est parce qu'il y a eu une revue anonyme par les pairs que Einstein avait pu découvrir qu'il y avait une faille dans ce raisonnement et qu'il a repris un de ses articles qui a donné des choses très importantes en physique. Mais pourquoi cette anecdote ? C'est pour souligner le caractère récent de la revue anonyme par les pairs. On m'entend mal, c'est ça le problème ?
Non, on ne sait pas si c'est branché.
Bon, mais c'est pas très grave. Si, il me semble qu'il est branché, oui. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas encore très usuel dans la communauté scientifique mondiale dans les années 30. Donc, en fait, ce modèle de la revue par les pairs s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. Quel est le principe à la base ? C'est de dire, pour évaluer la qualité scientifique d'un article, c'est-à-dire d'une communication scientifique destinée ensuite à être publiée, il faut qu'elle soit expertisée par des gens qui, en théorie, ne connaissent pas l'auteur de l'article, qui sont compétents, qui ont été choisis auparavant, et que l'auteur de l'article lui-même ne sache pas par qui ça va être expertisé pour éviter les aspects de copinage ou de renvoi d'ascenseur, etc., qu'il peut y avoir dans ce type de choses. C'est-à-dire qu'on ait une évaluation, entre guillemets, la plus neutre possible. Ce modèle s'est progressivement diffusé, d'abord dans les sciences dures et de façon plus générale, après la Seconde Guerre mondiale, et c'est le modèle qui fait qu'aujourd'hui, toutes les revues qui prétendent être de niveau plus ou moins universitaire sont donc munis d'un comité de rédaction qui, lui, s'occupe de la vie de la revue au jour le jour, mais qui surtout a pour tâche de recevoir les articles et de les envoyer à des relecteurs anonymes, donc des experts anonymes, des reviewers choisis dans la communauté scientifique, qui l'expertise de façon anonyme, qui envoient leurs remarques, et le comité de rédaction assure la navette avec les auteurs, les articles, en disant votre article a été soumis, il est bon à publication, non, il ne peut pas être publié, ou alors il peut être publié sous telle ou telle condition, il faut reprendre la réécriture de tel aspect, etc. Donc ce modèle s'est largement diffusé, y compris donc dans les sciences humaines et sociales, et a abouti à une distinction très forte maintenant entre les revues dites donc à comité de lecture et les revues sans comité de lecture, qui peuvent être souvent vues comme des revues soit de vulgarisation, soit des revues pédagogiques, soit des revues grand public, ou des revues de débat, ou d'autres types de publications. Voilà. Je voulais tout de suite préciser ça, parce que ça, c'est un fil rouge qu'on va retrouver dans toutes les revues, et c'était pas la peine de le redire à chaque fois. Je précise au passage, et après je reviendrai sur l'aspect des évaluations, des enjeux des évaluations plus spécifiquement, mais que cette idée de revue par les pairs a évidemment à voir avec l'idée qui gouverne toute la régulation de la communauté universitaire. C'est l'idée que les universitaires sont jugés par d'autres universitaires pour tout ce qui concerne leur qualité scientifique. Donc ils sont jugés par d'autres universitaires au moment du recrutement. Pour être recruté universitaire, il faut être qualifié et recruté par ses pairs, par d'autres chercheurs de la même discipline. C'est la même chose, évidemment, pour les promotions. C'est la même chose pour, la plupart du temps, tout ce qui est les appels d'offres, le financement des projets de recherche. C'est la même chose pour les évaluations des équipes de recherche. C'est la même chose pour les évaluations systématiques des chercheurs eux-mêmes. Bon, donc je détaille pas, hein, c'est quelque chose qui est récurrent, et donc on voit bien ce processus qui se met en place, qui s'est mis en place, dans lequel la communauté apprécie elle-même la qualité scientifique des gens qui sont amenés à pénétrer cette communauté, à publier dans cette communauté ou à y vivre de façon plus générale. Et c'est un principe auquel les universitaires sont très attachés, parce que pour eux, c'est la garantie d'abord de l'autonomie scientifique par rapport aux demandes de la société, aux demandes du politique. C'est de dire, les enjeux proprement scientifiques doivent être déterminés par les scientifiques eux-mêmes, même si ensuite les autres peuvent intervenir pour décider sur la base des jugements que vous avez faits, on finance, on accrédite, etc. Et le deuxième principe, c'est l'idée que donc autonomie scientifique et également, je dirais, qualité scientifique. C'est totalement lié, c'est, je dirais, deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est l'évaluation pair permet d'être autonome et elle permet aussi de dire que la qualité ne peut être appréciée qu'en fonction de critères strictement scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que notre travail en matière de recherche, tout du moins, repose sur des critères qui soient autres que scientifiques. Donc on veut choisir librement nos sujets, nos thèmes, et on veut également que la qualité soit appréciée par nous-mêmes. Alors évidemment, ça c'est un principe général qui, après, souffre de multiples atténuations dont on va parler ensuite, mais c'est aussi ce principe qui est là derrière tout ce système de revues qu'on va examiner de façon plus concrète, mais je tenais au début à fixer un peu ce principe pour mieux comprendre, y compris des fois des choses qui, au contraire, qui autrement sont difficiles à apprécier quand on n'est pas dans le système. Et par exemple, j'en cite juste un, c'est la multiplication énorme des revues en France comme à l'étranger, qui peut paraître à un moment donné peu productive, mais qui est souvent en lien avec cette idée, à partir du moment où on est scientifiquement libre, il faut qu'on ait des lieux pour exprimer cette autonomie intellectuelle et scientifique. Et donc, il est normal que pour chaque sujet, spécialité, courant de pensée, etc., il y ait des revues différentes. Mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Rémi, qui va développer un des aspects les plus récents. On va prendre, je dirais, par rapport à la chronologie, de façon un peu à rebours, sur la question des revues en libre accès.
Merci. Alors, les revues en libre accès, il y a des choses que Laure a développées, que j'ai peut-être juste mentionnées, mais sans revenir dessus. Merci. sans revenir dessus, puisqu'elle a déjà abordé certains points. D'abord, il y a une définition des revues en libre accès. Laure a donné la définition de l'accès libre, hein, tout à l'heure, je crois. L'adresse du site internet qui est mentionnée, c'est pas la même au même endroit que ce que Laure a présenté tout à l'heure, mais c'est une réplique. C'est exactement le même contenu sur les deux sites. Je vais vous la lire. Une revue en libre accès se dit d'une revue nouvelle ou existante qui répond aux exigences de qualité des articles par la présence d'un comité de lecture, donc Olivier vient d'en parler, mais qui a un mode de financement permettant une diffusion aussi large que possible, sans restriction d'accès et d'utilisation. Pour rappel, la définition du terme libre accès, vous y avez accès ici, mais je vais pas à revenir. Oui, c'est ce que tu as donné tout à l'heure, donc je vais pas à revenir dessus. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Un bref retour historique dans les années 90. Il y a deux facteurs qui sont concomitants, c'est l'augmentation des coûts de publication et en parallèle un usage de plus en plus important d'Internet par les chercheurs, mais aussi plus largement dans la société. Et une initiative en 2001 de la Public Library of Science qui publie une lettre ouverte en faveur du libre accès des ressources. Mais l'élément fondateur vraiment du libre accès, ça va être l'année suivante, le 14 février 2002, avec l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert. Laure l'a mentionné aussi tout à l'heure, où là ont été posées les bases de ce qu'on pouvait attendre des publications en accès libre. La définition que j'ai lue tout à l'heure a été élaborée à cette occasion. Alors, quel intérêt pour les chercheurs? Une plus grande visibilité. Alors, c'est vrai qu'on est à une période un peu charnière. C'est pas forcément vrai aujourd'hui, mais les choses sont en mouvement. Laure l'a bien dit, et le pari est fait pour un futur assez proche. Mais l'idée, c'est d'assurer une plus grande visibilité pour les travaux des chercheurs, et aussi, du coup, d'être plus cité. Olivier, je crois, le premier jour lundi, a parlé du logiciel Publish or Perish. J'ai lu dans un article assez, Non ? Oui, il me semble. j'ai lu dans un article un peu récent qui disait finalement la question c'est plus publish or perish, mais c'est be cited or perish. La citation par d'autres chercheurs est un indicateur de qualité peut-être sur les recherches qui ont été faites. Voilà, l'idée c'est que ça peut favoriser la circulation. Alors, l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert a pour but l'accès libre à des revues à comité de lecture et se donne deux moyens pour y parvenir. Le premier, Laure l'a mentionné, c'est l'auto-archivage. Je ne vais pas revenir dessus, le deuxième, les revues alternatives, qui sont donc une nouvelle génération de revues avec d'autres méthodes de financement. La diffusion est libre grâce à Internet, ça a des coûts quand même, mais des financements peuvent venir des institutions, des gouvernements, des laboratoires, des sommes qui ont été économisées sur les anciens circuits de diffusion, et avec une diffusion électronique, forcément. On peut faire le parallèle, et puis en parallèle se sont développés aussi les logiciels libres, et puis plus récemment des licences libres. Donc on est bien dans un mouvement global sur l'accès libre, non seulement à des articles, à des revues, mais à d'autres types d'œuvres. Alors justement, les licences, par défaut, c'est le copyright qui s'applique. Je ne vais pas rentrer dans la distinction avec les droits d'auteur et le copyright. Je vais utiliser le terme copyright, même s'il y a des nuances. C'est le copyright qui s'applique. C'est rappelé par le BOAI en 2002. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnu et cité. En application stricte du copyright, on n'a pas le droit de diffuser une œuvre, de rediffuser une œuvre qu'on aurait téléchargée sur Internet pour la faire circuler. Donc il y a vraiment une tension entre la libre diffusion et le copyright. Par défaut, quand vous naviguez sur Internet, je ne parle pas que des articles scientifiques, par défaut, s'il n'y a pas de mention explicite d'une licence utilisée, c'est le copyright qui s'applique. Donc, a priori, on n'a pas le droit de la réutiliser, de la rediffuser. Donc, encore un petit détour du côté des licences. En 2007, il y a plusieurs rapports de l'OCDE qui sont parus. J'en cite un ici, qui s'appelle « Giving Knowledge for Free », et qui incite très clairement les États à prendre la voie de la libre diffusion des ressources, des ressources éducatives. En 2007, deux autres rapports sont publiés par l'OCDE, que j'ai pas mentionné là sur la diapo, mais qui concernent les ressources éducatives libres et puis le Open Content Licensing, donc tout ce qui tourne autour des licences ouvertes. Plus récemment, cette année, cet été même, je crois, un rapport britannique qui s'appelle Copyright the Way Ahead, qui lui parle de copyright 2.0, donc vraiment une adaptation du copyright pour ne pas être en contradiction avec les usages qui sont liés aux technologies de l'information et de la communication. En parallèle, les licences Creative Commons sont apparues depuis 2002, donc ce sont un ensemble de licences qui assez souples dans lesquelles l'auteur peut choisir d'accorder un certain degré de liberté dans l'utilisation de la ressource qu'il met à disposition. Donc il y a plusieurs degrés selon les usages qu'on souhaite laisser aux utilisateurs. Alors, Revenons-en aux revues, c'était quand même le sujet de mon intervention. Il existe des annuaires de revues en libre accès. Alors il y a le OpenDOA, Directory of Open Access Repository, qui liste au niveau international les dépôts où se trouvent des articles en libre accès. Donc, qui assure que ce sont des œuvres de qualité, qu'elles sont en accès libre et qui permettent l'indexation des articles. Un deuxième annuaire, c'est le DOAJ, Directory of Open Access Journals, qui là liste par continent et par pays ensuite qui liste les journaux qui sont en libre accès.
Par discipline, je crois.
Voilà, et j'ai mis un lien. Alors, je vais pas dessus, ça va. Bon. pour l'éducation, j'ai mis le lien pour ce qui concerne l'éducation, mais c'est par discipline, effectivement. Sur les archives, c'est classé par continent et par pays, et la liste pour la France est assez conséquente. Donc, mais c'est pas des revues, ce sont des dépôts où on trouve les. La revue, c'est une revue qui est présente sur Internet en accès libre. Le dépôt, c'est comme les archives ouvertes. C'est une plateforme où les gens vont déposer individuellement leurs ressources. Donc, des articles publiés dans une revue peuvent se retrouver sur le premier, sur Doar, parce qu'ils ont été mis sur les archives ouvertes, par exemple.
Un exemple quand même très pratique. Imaginons que j'ai mis quelques trucs dans les archives ouvertes françaises à l'SHS, sous mon nom, Olivieré, des communications, des choses comme ça, etc. C'est moi qui les ai mises et elles sont présentes quelque part via l'archive française qui est elle-même dans cet annuaire. En revanche, si j'ai fait un article dans une revue, je sais que j'ai fait par exemple dans la revue Administration Éducation qui n'est pas en ligne, etc.
Qui n'est pas en libre accès.
Celle-là, elle n'est pas un journal en open access, donc vous ne le trouverez pas par ce moyen-là. Donc,
c'est Et des revues en libre accès en France, il n'y en a pas beaucoup.
Je pense qu'Annie va y revenir, mais il y en a qui sont plutôt aux marges de la discipline.
Des revues en libre accès, donc. Alors, ce n'est pas des revues, ce n'est pas une revue. Les archives ouvertes. Les thèses en ligne, qui sont une partie des archives ouvertes. J'ai mentionné ces deux parce que c'est celles avec lesquelles je travaille. Mais ce n'est pas une revue. Hein. Là, je remette le titre.
Sur le libre accès parce que t'aimes ça.
Lui. Voilà. donc toutes les publications en accès libre en France sont, mais c'est pareil, c'est les dépôts. J'ai mis le cas de, puisque ça a été les premiers à faire la lettre ouverte de la Public Library of Science, qui elle stipule sur l'archive, c'est marqué, il y a le logo, que c'est journaux, ces revues, ces articles sont sous la licence Creative Commons by. Ça veut dire que la seule obligation légale d'utilisation de ces articles, c'est de mentionner la source. Après, on peut faire ce qu'on veut avec l'article. Or, et c'est là où, c'est pour ça que j'ai fait un petit détour par les licences, sur l'immense majorité des revues qui sont mentionnées sur ces sites, il n'y a pas de mention des licences. Donc, a priori, c'est le copyright qui s'applique. Donc, a priori, on n'a pas le droit de les diffuser. Mais elles sont en libre accès. Donc, c'est vrai qu'on est dans un flou où les pratiques, les usages, sont pas en conformité avec la loi, où la loi ne s'est pas adaptée aux usages. Mais c'est vrai que, du coup, parfois, la tension existe toujours. A priori, on a le droit de les réutiliser, mais rien ne nous l'indique. Et quand rien ne l'indique, c'est qu'on n'a pas le droit. Il y a une tolérance jusqu'au jour où il y a une jurisprudence qui fait qu'on est condamné parce qu'on n'a pas le droit. Pour m'être intéressé d'un peu près à l'exception pédagogique, donc c'est pas sur les articles scientifiques, mais pour l'enseignement, l'exception pédagogique en France n'existe pas. Le droit de citation, c'est quelque chose qui n'est pas défini. Donc certains disent qu'un nombre de pages, c'est un pourcentage, il n'y a rien qui le définit. Voilà.
Et après, par rapport aux articles, j'imagine qu'en plus, on se heurte à la législation sur la propriété intellectuelle américaine, qui n'est pas du tout la même qu'en France. Donc, quid d'un article d'un auteur américain utilisé en France via un bouquet de revues, etc. Enfin bon, ça va être relativement compliqué.
Et l'exception pédagogique s'appelle Fair Use, mais existe aux États-Unis, par exemple, ou dans beaucoup de pays anglo-saxons notamment. Pardon ?
Alors, ça dépend, parce que les auteurs ne sont peut-être pas forcément d'accord.
Des revues en ligne. Alors, des revues en ligne qui ne sont pas forcément en accès totalement libre. Je prends l'exemple de la RFP, par exemple. On a certains... En fait, les derniers numéros ne sont pas en ligne, hein, sauf si je me trompe, mais on a accès aux numéros anciens. C'est pas... Voilà. Donc, c'est pas de l'accès libre. On a accès aux articles. Est-ce que quand on a accès à un article de la RFP qui est plus ancien que 4 ans, on a le droit de le diffuser derrière ? Distance et savoir, pareil, hein, les derniers, c'est la revue du CNED, les derniers, je sais pas si c'est 4 ans aussi, mais les derniers, c'est peut-être moins pour distance et savoir. Ça, c'est un liquide. Bon. European Educational Research Journal, pareil, on n'a pas accès au dernier numéro, c'est sur abonnement, c'est une revue qui est en ligne, on y a accès, mais ce n'est pas une revue en accès libre. Hein, pour répondre tout à l'heure, ou alors des revues en ligne qui sont payantes. Elles sont en ligne, on y a accès, même au dernier numéro, mais elles sont payantes. Alors c'est vrai que si vous allez essayer tout à l'heure ou demain, depuis les salles informatiques, vous allez avoir accès à des revues, et vous allez vous dire, bah, c'est du libre accès, je peux lire l'article. Oui, mais là c'est parce qu'on on navigue via les serveurs de l'INRP, donc l'INRP a un abonnement, donc on a un accès libre, entre guillemets, aux articles, mais via l'abonnement qui est payé par l'INRP. Si on fait la même chose depuis chez nous, très cher. Si on fait la même chose depuis chez nous, eh ben on n'a pas accès à ces revues, sauf à payer très cher l'article, de l'ordre de des fois 50 euros. Enfin, c'est assez pour un article, c'est assez.
On pourrait effectivement avoir une discussion sur ces périmètres, mais il faut quand même voir quand même que dans le temps où il n'y avait que des publications imprimées. C'était pas mieux.
Ah oui,
on ne vous les envoyait pas chez vous, vous n'aviez pas d'abonnement gratuit. Il y a un étudiant en sciences d'éducation il y a 15 ans, même quand en distance savoir n'existait pas encore, de toute façon, il n'avait pas accès libre à la revue française de pédagogie en papier. C'était entre guillemets encore pire. Je ne devrais pas le dire, mais c'est-à-dire qu'il n'a même pas la possibilité de se faire envoyer des articles par quelqu'un qui connaissait, qui pouvait l'avoir sur son ordinateur. Ou d'aller trouver la version antérieure de l'article, parce qu'il est rare qu'un chercheur ne publie qu'un seul article sur un sujet. Il ne pouvait même pas aller traficoter dans les différents annuaires que vient de nous décrire Rémi pour aller trouver ce que la personne avait dit, sinon l'article qu'il cherchait, mais du moins avait dit sur le même sujet ailleurs. Et là aussi, là, je vous livre tout de suite, quand même avant, un truc qui vous sera utile pour vos TP et qui nous, on utilise tous les jours, c'est que quand vous avez un chercheur X qui a publié sur un thème T, dans une revue, mais que vous n'avez pas pour x raison accès à cette revue, ce qui nous arrive aussi, l'INRP n'est pas abonné à tout, parce que c'est très cher, eh bien on cherche ce qu'a écrit l'auteur X sur le thème T ailleurs. Et il est très très fréquent qu'on arrive à trouver, via des actes de colloque en libre accès, via des revues en libre accès, via des archives ouvertes, ou via même des sites totalement bizarres, ne serait-ce qu'une association qui a organisé un jour un petit séminaire et qu'il a fait venir cette personne et que cette personne lui a donné son texte, etc. Il est très fréquent que l'on trouve en fait les idées qui étaient dans l'article auquel on n'a pas accès dans d'autres ressources en libre accès. Voilà. Et en cela, il y a quelque chose qui se met en place qui est très nouveau et qui quand même est très important. Et pour nos TP tout à l'heure, et en général pour la recherche.
Mais voir trouver l'article de la revue auquel on n'a pas accès via la revue, mais le même article est sur les archives ouvertes.
Oui. Je voudrais ajouter à ce que disait madame par rapport à cette réflexion de verrouiller encore plus, et notamment les publications d'INRP, qui aussi est un organisme public.
Non, c'est verrouillé, c'est aussi par rapport au droit d'accès, c'est-à-dire que c'est par rapport au droit d'auteur, c'est-à-dire à la duplication, à l'utilisation du produit derrière. C'est-à-dire que quelque part, je pense que les enseignants, alors c'est peut-être moins sensible au niveau des sciences humaines, imaginez quelqu'un qui a trouvé un truc miraculeux en maths, en sciences physiques ou autres, il n'a certainement pas envie que quelqu'un d'autre exploite ce qu'il a trouvé. C'est l'idée du copiage. Voilà, en sciences de l'éducation, c'est moins embêtant, mais c'est le principe. C'est l'idée de, voilà, nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien, nous-mêmes, nos petits trucs modestes, ont été réutilisés, reproduits.
Mais alors...
Alors, tant mieux, oui, mais d'un autre côté, tant pis pour la personne qui a fait sa thèse en copiant dans des éléments, c'est quand même dommage.
Excuse-moi, pour moi, il y a deux choses, vous n'êtes pas du tout sur le même point de vue. Elle attend, je ne peux pas vous choquer, hein, bouche ouverte que l'objet arrive chez vous. Vous savez que s'il y a grève et que le métro T2 qui doit passer, mais qui ne passe pas, vous allez pouvoir bifurquer et inventer une solution qui va être ni inscrit dans votre tom-tom ni nulle part. Parce que vous connaissez un cheminement qui vous permet de faire une bifurcation qui n'existe pas, mais que vous avez, vous, dans votre bibliothèque imaginaire, et qui va vous ramener là. C'est ce que vous êtes en train de... C'est ce que je comprends par rapport aux listes. Parce que vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de listes? Et vous, vous dites, il y a une liste qui arrive là, il n'y a que ça. Non, il y a 36 000 possibilités d'aller à Rome. Mais en fait... Dans votre démarche, quand elle vous dit il y a des choses dans lesquelles j'ai pas accès, il faut pas vous dire j'ai pas accès, c'est il faut vous dire quels sont les chemins de traverse qui vont me permettre de trouver ça. Vous devez vous positionner là. Et quand elle vous parle de ça, c'est il faut vous rappeler que le trésor sur lequel vous allez tomber, c'est quelqu'un qui l'a pendu, ce trésor. N'allez pas le bouffer, vous êtes sur le pot commun, vous faites pas, vous le piquez pas. Vous le copiez pour le coller là, mais vous ne l'enlevez pas du trésor. Elle n'est pas au même niveau que vous.
Oui, c'est ce que j'avais essayé de décrire de façon...
Alors, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait accès à un maximum d'informations. Nous, professionnellement, bien entendu, on est demandeurs d'avoir accès à distance et savoir, etc. Ça nous gêne aussi. Mais il faut aussi voir qu'il y a un auteur, il y a quelqu'un qui a bossé un certain nombre de temps pour produire son article et qu'il peut le diffuser... On est tout à fait pour le libre accès. Nous, il n'y a rien qui soit ni payant ni rien sur tout ce qu'on fait à la VST, mais il y a une espèce de respect. Et donc, trouver des règles. Attention, par contre, donner l'accès, mais en respectant des règles.
Je pense c'est plus un problème d'éditeur que d'auteur, d'ailleurs, parce que l'auteur, bon, ça ne va pas changer grand-chose pour lui. Pour la diffusion du savoir, si quelqu'un prend l'article, il va toujours rester là. On ne vole rien. A priori, c'est fait pour circuler. Mais bon, terminer sur le rapport que je mentionnais, le rapport britannique, qui est sur ces problématiques et qui dit le copyright ne doit pas empêcher la diffusion du savoir. Donc, il faut faire évoluer le copyright pour. Donc, c'est pas le copyright, c'est pas bien. Il faut passer à autre chose. C'est faire évoluer pour que au moins ça puisse être diffusé sans entrave. Je schématise.
Je vais laisser après quand même poursuivre Rémi, mais. Pourquoi cette discussion est importante et pourquoi on a quelque part voulu que Rémi parle en premier ce matin alors que la logique initiale aurait voulu qu'il parle en dernier, hein, passé vers futur. Alors pourquoi on a voulu en premier? Parce que quelque part, toutes les revues qu'on va aborder, justement, on se doutait bien qu'a priori les choses, c'est bien gentil de nous présenter toutes ces revues, mais enfin bon, la plupart on n'y a pas accès, on ne peut pas les avoir au moment où on veut, etc. Donc vous nous dites ne se repérer et s'orienter dans la recherche à formation, mais sauf si on est dans l'université, on aura beaucoup de mal, et même dans notre université n'est pas abonné, etc. Ce qui était important de dire à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le savoir lui-même, c'est-à-dire l'idée produite par un ou des chercheurs, est de moins en moins confinée dans l'endroit où elle a été publiée, c'est-à-dire là-dedans, ou dans une revue, etc., même si parfois ce n'est pas si simple. Mais que donc, dans une démarche d'investigation, c'est-à-dire on veut réellement retrouver l'idée, pas forcément la forme, l'article, etc., mais l'idée, on peut très bien, on a de plus en plus d'outils aujourd'hui pour la retrouver via les lieux, les endroits, les processus, les sites, etc., que cite Rémi Thibert. Et ça ne veut pas dire, en revanche, que ça invalide ce qu'on va vous présenter après, puisque, en revanche, les revues, les ouvrages restent un endroit où on valide l'information, ce que je décrivais auparavant par les revues, par les pairs, etc. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment donné, repérer librement sur le web une revue qui cite un article qui nous intéresse, mais on n'y a pas accès pour x raison. Mais à partir du moment où on sait que cette revue a publié tel article de telle personne, on se dit que là, il y a quand même une validité scientifique, c'est un moyen de repérer cette production intellectuelle, et qu'à partir de là, on peut retrouver via l'auteur, d'autres productions intellectuelles sur le même sujet qui nous permettent, à un moment donné, de contourner les obstacles, etc. C'est pas pour, du tout pour excuser des problèmes de politique publique, d'accès, etc., mais sur lesquels nous, on n'a pas prise ici aujourd'hui. C'est un sujet de débat très intéressant, mais sur lequel on n'a pas prise, puisqu'on ne fait pas la politique en la matière. Mais c'est réellement pour expliquer dans le cadre de ce séminaire ce que ça signifie pour nous, utilisateurs des productions de la recherche.
Bon, ben voilà, j'ai une dernière diapo, c'est un rappel des bibliographies. Une conférence aussi qui a lieu sur l'édition électronique sur le site de l'URFIST vers de nouveaux modes de valorisation de la recherche, bon, qui rejoint ce qu'on a dit là.
Oui, c'était juste pour rappeler, parce que je vois que les gens prennent les notes, nos diaporamas sont accessibles toujours, alors pour les récupérer, non mais comme il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui, nos diaporamas sont accessibles au format PDF, alors quand vous serez dans les salles d'informatique, donc on vous a mis ici un répertoire qui est accessible via la connexion utilisateur formation, mot de passe formation, que vous pourrez récupérer, si jamais vous avez oublié ou autre. On suppose qu'on pourra vous les envoyer
oui, y a pas de
par
problème.
Mail sans aucun souci. Hein. Donc, vous aurez les quelques liens qu'on a pu faire. Et en tout cas, il y a des diaporamas sur lesquels les liens n'étaient pas écrits lisiblement, mais où ils sont. Et donc, en réutilisant les formats PDF, vous pourrez cliquer et aller sur les différents sites dont on vous parle ou les revues dont on va vous parler.
Sachant qu'il y a aussi des outils qu'on va aborder dans les TP où on retrouvera tous ces liens...
Travailler sur ce,
Juste pour compléter peut-être, mais c'est pour faire le pont avec un TP de vendredi, il y a aussi des outils de gestion de bibliographie qui permettent d'avoir de l'information sur des articles, sur des ouvrages, sans forcément avoir d'ouvrage par le plus apporté par les internautes. Voilà.
Alors pendant que Annie s'installe, juste deux points sur lesquels je rebondis par rapport à son exposé. Savoir par rapport au copyright, etc., il y a quand même un enjeu. Alors peut-être pas pour ceux qui utilisent les résultats de la recherche eux-mêmes en produire, mais un enjeu très clair pour les auteurs, c'est que comme la carrière des auteurs est souvent assise sur leur citation ou leur réputation scientifique attestée par des citations, il est clair que quand ce que vous avez produit est pris par quelqu'un et qu'il ne vous cite pas dans les formes qui sont reconnus par la communauté scientifique, quelque part, vous perdez, entre guillemets, ou vous ne gagnez pas des points de notoriété, ça peut vous nuire dans votre carrière scientifique. Donc là, il y a un enjeu, et c'est pour ça que même dans des publications en libre accès, beaucoup d'auteurs disent, pour citer cette source, et ils nous donnent comment la citer exactement pour être bien cité et bien reconnu, notamment par des moteurs de recherche, des robots qui indexent tout ça. Oui. Tout à fait, tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais je dirais que dans le libre accès, ça pose un problème au sens où là, vraiment, il y a l'aspect copier-coller qui est facilité.
Pour être clair,
encore plus trivial, nous, à la BST, on n'a pas, pas d'enseignant-chercheur parmi nous. On n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais il est clair que des fois, on est vexé parce que comme on met tous nos travaux en libre accès, qui sont très faciles de faire des choses avec, on les retrouve des fois compliqués. Sur des sites en France ou à l'étranger. Et on ne nous dit pas du tout que ça vient de nous, etc. C'est des fois un peu vexant. Ça serait embêtant si on avait une carrière scientifique derrière à gérer. Ça aggrave, mais c'est vrai qu'à la base, le comportement est le même. Mais je dirais que ça facilite des comportements un peu désinvolts, dirons-nous. Deuxième chose que je voulais faire aussi. En transition, je l'ai complètement oublié, donc elle me reviendra plus tard. C'est pas très grave. Excusez-moi, je passe aussi la parole à Annie.
Voilà, je pense que là, on peut dire qu'on va peut-être rentrer un petit peu plus dans l'outillage. Alors, on va essayer de ne pas vous fatiguer les neurones avec des listes de revues, etc. Donc, nous, il se trouve que le problème, donc par rapport, maintenant vous avez eu le paysage, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un peu de veille ou faire de la recherche en utilisant des revues, qu'elles soient francophones, anglophones ou autres. On va essayer de faire un petit peu le tour. Alors, on va revenir peut-être sans doute à des petites choses un peu plus classiques. Donc, sur quelles revues est-ce qu'on peut veiller? Donc, on a vu un certain nombre d'éléments. Mais je crois que dans le paysage des revues scientifiques en sciences humaines et sociales essentiellement, On a plusieurs producteurs et c'est ce qui peut donc influencer nos modes de recherche derrière et nos manières de trouver l'information. Donc il y a bien entendu toujours les éditeurs commerciaux. Il y a des revues qui sont produites par des équipes de recherche, d'autres qui sont produites par des associations et des revues institutionnelles. C'est un petit peu nous, notre fonds de commerce. En matière d'utilisation de revues, qu'elles soient en ligne ou pas en ligne, c'est quand même toujours un petit peu le principe. Et par contre, derrière, on a bien entendu, donc là c'était un résumé, au niveau des supports de diffusion, des revues en texte intégral, des revues qui ne proposent que des résumés en ligne et des revues qui ne proposent que les résumés. Alors pourquoi je dis ça? Moi, essentiellement, effectivement... Sommaire, qu'est-ce que j'ai dit? Les résumés. Non, les sommaires seuls. Et nous, effectivement, c'est un peu notre souci de trouver... justement l'info en texte intégral, à défaut les sommaires, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de n'avoir que les sommaires, mais certaines revues, on n'a que ça dans un premier temps à se mettre sous la dent pour pouvoir derrière diffuser et travailler, puisque nous on a les deux options. J'essaye quand même de resituer ce qu'on fait, ça c'est ce qui me faisait des critiques en aparté, quand même ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous on a deux manières d'approcher les revues, c'est d'une part faire de la veille pour diffuser et mettre en ligne un maximum d'informations. Donc on essaye de trouver de l'information qui soit en ligne en texte intégral, à défaut donc le reste, et surtout de travailler pour pouvoir faire des synthèses. Et donc là, on plonge dans le vif du sujet en essayant de trouver l'information qui pourra nous être utile et qui pourra être exploitable et synthétisable. Alors, en matière de revues en sciences humaines et sociales, bon, ça c'est peut-être une évidence de dire que toutes ces revues, elles sont faites pour construire la discipline, c'est-à-dire par des chercheurs, donc c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que j'ai mis comme bêtise?
Rien, vas-y, continue.
C'est ce que tu disais quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des chercheurs qui essayent de diffuser leurs travaux de recherche. Ce qui explique par exemple qu'on ait effectivement des équipes de recherche qui ont une revue qui doit être diffusée à quelques
dizaines,
mais je n'osais pas dire dizaines d'exemplaires qui sont parfois référencés et sur le qui peuvent être parfois en ligne mais pas forcément, donc à diffusion relativement restreinte. Et puis bien entendu les éditeurs diffuseurs, et on verra après comment ils pratiquent pour diffuser l'information, avec des formats papier, des formats électroniques, avec cette barrière mobile, je vais y revenir, en sachant donc qu'on a aussi des éditeurs privés qui diffusent des revues qui sont produites par des organismes publics, des universités. On a, nous, par exemple, si je puis me permettre, la revue Éducation et Société qui est diffusée par les éditions De Book en Belgique. Voilà, par exemple. Alors, sur les éditeurs privés, je fais un truc rapide, hein, ça va vous fatiguer, je pense. Il y a des éditeurs privés qui ont un fonds relativement important de revues, c'est-à-dire en sciences humaines et sociales, qui ont plus d'une dizaine de revues. Ce sont les Presses universitaires de France, la Documentation française, l'Harmattan, les Presses universitaires du Mérail ou Elsevier, par exemple. D'autres un peu plus modestes. Donc, j'ai cité De Book, il y a RS, Armand Collin accessoirement, les autres sont moins, enfin moi je les rencontre un petit peu moins, SK et Le Seuil par exemple, que je croise un petit peu moins dans les revues sur lesquelles je veille, et puis des éditions plus généralistes ou dans d'autres domaines comme Belin, Clinsic, Peters Publications et les presses de Sciences Po qui peuvent aussi publier. Donc, bref, de Sciences Po, ça doit être aussi en sociaux, par exemple. Je les croise moins, mais en sciences humaines et sociales, de manière générale, voilà quelques éléments. Alors, très rapidement, on a vu qu'il y avait une diffusion hybride entre papier et numérique. En 2005, donc sur l'étude que j'avais vue, 3/4 des titres étaient proposés sous format papier. Ça a beaucoup changé, donc ça évolue beaucoup sur les 3-4 dernières années. On a par contre ce qui peut être utile hein, en termes d'outillage, ce sont les portails qui permettent donc d'avoir donc c'est ce qu'on appelle des bouquets de revues aussi. Donc il y a des portails qui ne font que recenser. Ce qui est plus intéressant pour ce qui nous concerne, ce sont les portails agrégateurs, c'est-à-dire où on a des bouquets de revues, alors soit spécialisés en sciences humaines et sociales, soit beaucoup plus larges, comme donc revue.org et cairn.info dont a parlé Laure tout à l'heure. Sur revue.org, on a 168 revues en sciences économiques, en sciences humaines et sociales qui sont référencées. Sur Cairn Info, on en a 203. Donc ça fait quand même une. Alors c'est pas en décembre 27009. Hein, j'étais déjà très loin dans le. Et puis donc il y a une, un troisième bouquet qui est érudit, qui est un bouquet de revues qui est un peu plus large. C'est un portail un peu plus large. Qui propose d'autres choses que les revues, mais qui est assez intéressant et qui est un portail canadien. Et puis, on a un portail patrimonial, c'est-à-dire que si vous voulez remonter dans le temps, nous, on est très sur l'info récente, mais par contre, Percé, qui est un portail public, lui, permet d'avoir des articles relativement anciens jusqu'en 2003, et c'est les bouquets précédents qui reprennent la suite à partir de 2003. Alors, par exemple, sur Percé, on a des fonds alors, qui peuvent être très anciens, comme l'année psychologique, qui, a priori, donc ils ont numérisé les articles depuis 1894, et ça va jusqu'en 2008. D'autres, comme la Revue française de sociologie, où on trouve les articles de 1960 à 2002, et après, c'est repris par revue.org, si je ne m'abuse, pour la suite. Par exemple, revue.org, donc on peut avoir, alors je vous ai mis ici une liste, donc ça ce sont des revues que moi je peux surveiller, qui sont signalées sur les pages de l'INRP. Je vous ai mis entre parenthèses la barrière mobile donc de diffusion, c'est-à-dire par exemple ALSIC, il n'y a rien de marqué, ça veut dire que les articles sont accessibles en ligne, y compris le dernier numéro. Sur éducation didactique, ça va être prochainement en ligne. Histoire de l'éducation, qui est aussi une revue de l'INRP, on a une barrière mobile de 4 ans. Donc, on a une autre revue, par exemple, recherche et éducation, c'est 1 an. Donc, ça, tout dépend de la négociation avec l'éditeur, hein, en l'occurrence. Sur cairn.info, donc, où j'avais dit qu'il y avait à peu près 200 revues en sciences humaines, on a peu de revues estampillées sciences de l'éducation. Je vous ai les citées, Carrefour de l'éducation, je pourrais y revenir si vous voulez des détails, qui n'est pas forcément une revue hyper importante. Par contre, on a donc Éducation et Société, donc publié éditeur intellectuel, je pourrais dire c'est l'INRP, éditeur commercial de book et à part le dernier numéro, tous les numéros, tous les articles sont en ligne sur cairn.info. Donc sur Cairn, si vous allez, vous avez l'information sur le dernier numéro d'Éducation et Société qui est sorti. Le seul accès que vous ayez pour l'instant, c'est un résumé. Et puis donc en 2000, vous avez les numéros de 2006 qui sont accessibles en texte intégral. Mais bon, c'est l'idée de je rentabilise le coût par un abonnement et ensuite, voilà. Au-delà, je peux. Voilà, c'est une histoire de coût. Hein. Donc, par exemple, revue en ligne sur Cairn, la dame est partie, mais Cairn propose les articles de distance et savoir, donc avec. Je ne sais plus si c'est 2 ans, voilà. Hein, donc, effectivement, ce n'est pas accessible. Après, sur Érudit, j'en ai juste cité 2 qui sont un petit peu plus importantes de mon point de vue, mais ce sont donc des revues, en l'occurrence canadiennes, mais il y en a d'autres qui sont des revues françaises qui peuvent se retrouver sur Érudit, je peux y revenir ultérieurement. Donc 2 revues canadiennes relativement importantes, Éducation et Francophonie, et Revue des sciences de l'éducation, donc Éducation et Francophonie étant en libre accès, y compris le dernier numéro. Alors, je ne sais pas, après, on peut se lancer dans... Tu peux t'immiscer, toi, sinon j'essayais de faire une typologie des revues. C'est plus par rapport à l'usage qu'on peut en faire et par rapport aux recherches que vous pourriez faire ultérieurement. J'ai essayé de classer les revues. Donc, j'ai mélangé les revues françaises et canadiennes, belges ou suisses en essayant de faire une typologie par rapport aux revues généralistes, sociologie, didactique, administration, orientation, linguistique, psychologie. Sur les disciplines, il y a beaucoup de revues sur les disciplines, en didactique, sur le PS, en français, en mathématiques.
Éducation physique et sportive, hein, pas le PS particulier.
L'EPS, ah, l'EPS, non, j'ai dit l'EPS, l'EPS, j'ai collé. Voilà, donc après, ça risque d'être un tout petit peu fastidieux. En tout cas, sur le document, vous trouverez à chaque fois ce panorama avec le lien, les titres des revues, donc il y a le lien vers la revue, il y a donc quelques éléments descriptifs, l'éditeur, la périodicité et puis l'embargo ou non sur les revues, si c'est possible, donc de les avoir via un bouquet de revues, en sachant bien que là, par exemple, j'ai pas mis. Je passe peut-être rapidement.
Si oui, vous alors voulez, moi, je peux peut-être intervenir. Je ne sais pas ce que tu vas dire après. Ponctuellement,
oui, tu peux par rapport à ton...
Oui, oui en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... c'est là où je vais parler un peu de la question du classement des revues. Depuis 2 ans, et surtout depuis l'année dernière, il y a une grande question qui a agité la communauté universitaire française. C'est ce que j'ai appelé, moi, la querelle du classement de revues, à savoir... la question de savoir comment apprécier la valeur relative des revues, est-ce qu'on peut à partir de là les classer pour prendre en compte cela dans l'évaluation des chercheurs. Pourquoi cette question s'est posée? Pour une raison relativement simple. En France a été mise en place une agence qui s'appelle l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et qui a commencé à dire il y a 2 ans que pour l'évaluation des équipes de recherche, on allait prendre en compte le taux de publiants dans chaque équipe. Qu'est-ce que c'est le taux de publiant? C'est le taux de gens qui font, en l'occurrence dans notre domaine, au moins 2 publications dans les 4 ans, dans des revues de dimension internationale et reconnues comme telles dans les classements internationaux. Problème, quel classement y a-t-il des revues en éducation? Il n'y en avait pas vraiment. Or, ils ont récupéré pour ce faire un premier classement qui avait été établi par la Fondation européenne pour la science. Des revues en sciences humaines et sociales et qui s'était amusé à classer l'ensemble des revues du champ éducation en A, B, C. A étant celle qui avait une grande diffusion internationale, une grande renommée internationale, B étant des revues plutôt nationales mais à diffusion internationale, et C étant des revues nationales, s'adressant essentiellement à un public national. Bon, ça c'est la langue de bois officielle. La vérité, c'est que c'était un classement. A, c'était les meilleurs. B, un peu moins bonnes. Et C, encore moins bonnes. Puis voilà, il faut le dire. C'était comme ça et tout le monde l'a compris comme ça. Et l'AERS a voulu reprendre ce classement, ce qui a évidemment mis le feu aux poudres, puisque beaucoup de gens publient dans des revues qui n'étaient pas forcément A, mais aussi en B et en C, et estimaient que c'était illégitime. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez, vous pourrez regarder. J'ai fait un dossier là-dessus cet été, un dossier de la VST, c'est le dossier numéro 46, ce qui s'appelle Productivité et qualité scientifique, enfin un nom approchant, qui rentre en détail sur tous ces classements, donc vous pourrez aller le consulter si ça vous intéresse. Ce qu'il faut en retenir quand même, c'est qu'à la suite de plusieurs épisodes, l'AERS et la 70e section du CNU ont refait un classement à leur sauce, s'inspirant à la fois du classement de la Fondation européenne pour la science et à la fois de considérations plus francophones ou françaises, qui modèrent un peu le classement, mais qui gardent quand même l'idée qu'il y a des revues qui sont plus ou moins bonnes que d'autres. Et ce qu'il est apparu à travers tous ces classements, qui vont ensuite, je pense, être remis en cause, parce qu'ils n'arrivent pas à les classer, en fait, mais c'est quand même ce qu'on sait pour les revues francophones, c'est que d'une part, il y a très peu de revues généralistes en recherche en éducation. Et là, c'est une grande différence. Je passerai après un mot à Marie pour qu'elle nous en dise un peu là sur les revues internationales. Mais pour les revues francophones, il y a très peu de revues généralistes, c'est-à-dire qui abordent l'ensemble du spectre de la recherche en éducation. On a essentiellement la Revue française de pédagogie, qui est la revue quand même de référence incontestable pour la recherche en éducation dans le monde francophone, qui est très connue non seulement pour ses articles, mais aussi parce que chaque mois, il y a ce qu'on appelle une note de synthèse qui fait l'état de l'art de la recherche sur une thématique pointue et qui a souvent été, qui souvent représente des mois de travail pour des chercheurs confirmés et qui est très utilisée. Comment ? Oui, évidemment. Enfin, bon,
elle se retenait, elle se retenait. Bon. Ça suffit.
Mais avec un fonctionnement très spécial quand même, c'est qu'elle est publiée par l'INRP, mais les rédacteurs en chef ne sont pas l'INRP. Donc, bon, bref. On ne va pas aller dans la cuisine. Là. Mais donc la Revue française de pédagogie est vraiment donc la revue de référence incontournable. Il y a une autre revue qui a une grosse réputation, mais qui est sur un champ spécifique, qui est la revue Histoire de l'éducation, qui est très, très particulière. Et qu'ensuite, on peut dire qu'ensuite, on a un ensemble de revues qu'on apprécie plus ou moins, mais qui sont toutes soit spécialisées dans un champ disciplinaire. Par exemple, la revue d'éducation et société dont parlait Annie est clairement une revue de sociologie de l'éducation et qui n'accueille quasiment que des sociologues de l'éducation, donc qui est sur un champ très spécifique. Il y a d'autres revues qui sont très liées à une histoire. La revue Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, vous pouvez faire la connexion avec ce que vous avez dit les jours précédents, est née dans le labo de Gaston Mialaret, très liée au groupe français d'éducation nouvelle, etc., et un peu toujours porteuse de cette histoire. Nous avons à la revue Les dossiers des sciences de l'éducation, qui est édité par le laboratoire Créfi à Toulouse. Ah, excuse-moi, si tu essayes de suivre,
j'essaye, j'aurai du mal. Si, hein. Si, j'essaye. C'était celui-là, j'étais en retard, voilà. Vas-y.
Hein?
Nous, alors.
Voilà, non, vous aurez la diapo. Je veux dire, voilà, il y a une soixantaine de revues francophones. Si je vous les fais toutes une par une, vous allez rien tenir et c'est pas passionnant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une revue de référence et après énormément de revues thématiques et spécialisées, de valeur plus ou moins grande selon le point de vue où on se place.
Je vais le polluer, bon, je vais le
mettre. Ce que je voudrais dire à cette étape, c'est que cette soixantaine de revues, elles décrètent toutes qu'elles sont des revues à comité de lecture. Le problème qu'il y a, il est clair, on va le dire, je ne fais pas que des amis si je dis ça, mais 600 enseignants-chercheurs à peu près en France. Bon, il y a aussi les Suisses, les Belges et les Québécois, mais enfin, on ne passe pas une communauté de 10 000 personnes. Hein. Donc, c'est dans ce vivier-là qu'il faut trouver les rédacteurs des revues, les comités scientifiques des revues, les experts des revues et les auteurs des articles des revues. 60 revues. Ce que je vous disais sur l'anonymat, vous imaginez ce que ça veut dire. Bon, ça veut dire dans un champ aussi étroit, sachant que tout le monde est plus ou moins spécialisé, quand un article est soumis, sauf si c'est vraiment un jeune chercheur qui vient de finir sa thèse, qui est vraiment inconnu, qui n'a rien publié, il y a toutes les chances, ne serait-ce que par un coup d'œil à la bibliographie, qu'on sache tout de suite qui c'est. Même moi, qui ne suis pas un ancien chercheur, vous me présentez, je pense, une grande partie des papiers qui sont soumis aux revues, jette un coup d'œil sur la vidéo, je sais sinon qui a écrit l'article, en tout cas de cause, j'ai un faisceau d'indices sur savoir, il est dans un groupe d'une dizaine de personnes, là, hein. Il ne peut pas être ailleurs. Donc, l'aspect anonymat est quand même très, 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 très relatif, et ça veut dire aussi que, je dirais, à part les revues, qui sont comme la rue française de pédagogie, des choses qui sont les plus diffusées, la compétition, la concurrence scientifique pour être publiée dans ces revues est plus ou moins importante, pour euphémiser, ce qui explique les réflexions sur la question des classements et aussi les enjeux que ça leur représente pour des chercheurs, puisque être aussi directeur d'une revue, ça compte dans le CV, être publié, ça compte dans le CV, etc. Et que, évidemment, si on réduit le nombre de titres de revues, ça réduit le nombre d'occasions d'être publiées, donc de pouvoir dire qu'on a des publications. Enfin, bon, vous imaginez tout le cercle qui est derrière, qui ne nous concerne pas au premier chef, mais qu'il est important de comprendre pour comprendre la production scientifique et donc pour comprendre aussi qu'on va pêcher les articles. Autrement dit, pour résumer, et là je parle plus aux personnes qui vont faire les ateliers pratiques que aux gens qui voulaient simplement s'instruire comme les deux jours précédents, quand on regarde quand on cherche un article sur un sujet, on regarde un peu le titre pour savoir un peu quelle est la valeur de ce qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réflexion passionnante, pertinente, en archive libre sur la relation des parents à l'école, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que ouais, c'est un très bon travail, etc. Mais en même temps, si on veut être sûr que cet article a été un peu validé, etc. On regarde aussi si la personne a publié dans telle ou telle revue. Et c'est pas la même chose si cet article a été publié comme note de synthèse de la revue française de pédagogie, qui est quand même une forme de reconnaissance académique assez forte, ou si c'est uniquement un article qui a été publié dans une revue éditée par un centre de recherche, que la personne elle fait aussi partie de ce centre de recherche, parce que bon, bah, on sait que cette revue n'a pas la même valeur, quoi, et n'a pas la même diffusion par ailleurs.
En fait, ça rejoint un peu, c'est plutôt une question pratique. Maintenant, c'est peut-être un peu bête, mais moi, je me pose la question par rapport à toutes ces revues qui existent. Est-ce qu'il existe aussi des moteurs de recherche qui permettent, par mots-clés ou autres, de trouver l'article qui pourrait nous intéresser dans notre
recherche ? Ça, je pense qu'on en reparlera cet après-midi.
Alors, simplement, je complète par rapport à ça. Une soixantaine
oui, il y a le site de la VST, bien sûr.
une soixantaine de revues francophones. Les chercheurs, en plus, les chercheurs eux-mêmes en citent. Il y a eu des enquêtes, des fois auprès des anciens chercheurs, en leur disant dans quoi vous publiez ou qu'est-ce que vous estimez qui sont des revues pertinentes. Comme chacun cite en gros les revues dans lesquelles il publie, on va beaucoup plus loin que 60. Nous, on assume le fait que Annie, elle travaille sur une soixantaine de revues et on assume ce choix. Maintenant, il y a d'autres revues qui ne sont pas du champ où les chercheurs publient. Par exemple, un chercheur est très content s'il arrive à de l'éducation, il est très content s'il arrive à placer un article dans la revue française de sociologie, mais qui ne va pas se transformer en revue de recherche en éducation par la magie de cette citation. Et y compris, il y a des revues qui apparaissent très prestigieuses, mais qui en fait ne sont pas à comité de lecture, mais tout le monde l'a oublié. Tout à l'heure, on parlait de Actes de la recherche en sciences sociales. C'était la revue fondée par Pierre Bourdieu. Dans une enquête de Janin en 2001, Actes de la recherche en sciences sociales était mis première ou deuxième revue la plus citée comme étant scientifique par les chercheurs en éducation, comme répondant le mieux aux critères de la scientificité ou aux critères de la revue par les pairs. Petit problème, jusqu'à la mort de son prestigieux père fondateur, ce n'était pas une revue à comité de lecture. Parce que vous prenez les vieux numéros d'actes de la recherche en sciences sociales, vous pouvez feuilleter, vous verrez directeur de publication Pierre Bourdieu, punté final. Pas de comité, pas de conseil scientifique, pas de comité d'experts, rien. C'était lui qui décidait ce qu'il y avait dedans, ce qu'il n'y avait pas. Ça ne l'empêchait pas d'être très prestigieuse. Pour tout dire que ces catégories-là sont relatives. Et par ailleurs, au niveau quantitatif, je vous passe la parole juste après, mais parce que autrement je vais l'oublier. Il faut savoir que au niveau international, et en prenant que le champ de l'éducation, au sens, je dirais pas strict, mais quand même un peu, des chercheurs australiens ont recensé 1084 revues concernant le champ de l'éducation en comité de lecture uniquement en langue anglaise. Bon, donc ça vous donne une idée du champ, et Marie va vous en parler, mais ça justifie un peu votre question, mais on s'y retrouve, nous, là-dedans.
5 minutes aussi. Sur les 60 revues, est-ce qu'on peut avoir une idée justement par rapport aux catégories, puisqu'elles existent, A, B, etc. Et il y en a combien à peu près
Alors, selon les classements, si on prend le classement de la Fondation européenne pour la science, il y avait en gros 3 revues françaises en A, alors 2 revues qui étaient dans le champ de l'éducation, donc Histoire de l'éducation et la revue française de pédagogie, et une revue qui bizarrement est une revue de psychologie, qui s'appelle Enfance, qui... certes, est consacré à un thème qui n'est pas de thème de l'éducation, mais c'est réellement une revue de psychologie. Il n'y a que des psychologues qui écrivent dedans et qui s'adressent vraiment à des gens qui s'intéressent à la psychologie. Hein. C'est quand même de la psychologie. En B, ils avaient mis, pour les revues françaises, je l'ai quelque part, en gros, une dizaine de revues, style recherche et formation, éducation et société. Qu'est-ce qu'ils avaient mis encore? Attendez. Dans mes yeux, ils avaient mis voilà, excusez-moi, éducation permanente, formation emploi, penser l'éducation, repères, la revue internationale d'éducation de Sèvres, qui n'est pas une revue non plus à comité de lecture, mais ils ne devaient pas le savoir. Et puis ils avaient même mis perspective en éducation, dont je ne sais pas trop ce que c'est, que j'ai jamais réussi d'identifier. J'ai une hypothèse, c'est que c'était peut-être l'ancienne revue de l'INRP, perspective documentaire en éducation, mais qui n'existe plus. Bon, peut-être qu'ils ont classé des revues mortes, c'est intéressant comme. Donc voilà. Et puis en revue de Rancé, ils en avaient mis à peu près une demi-douzaine, dont Aster, Carrefour de l'éducation, Didascalia, éducation et formation, l'orientation scolaire et professionnelle, les sciences de l'éducation pour la nouvelle, le télémac, les recherches et formation. C'est pas la peine de les noter, parce qu'en fait, ils en ont oublié plein. Parce qu'il y en avait plein d'autres qui ne sont pas dans cette liste. Mais c'est juste pour comprendre un peu le raisonnement qui les guidait. On voit bien quel était le profil. La ERS a fait un autre classement qui consiste, avec le CNU, avec la 110e section du CNU, qui consiste en gros à grossir un peu le rang A, mais très légèrement, à mettre une revue canadienne et une collection d'ouvrages suisses qui n'est pas une revue. Et à mettre en gros tout le monde en rang B. Et à en laisser enracer que des revues très pointues comme la nouvelle revue de l'AIS ou Diversité. Bon, voilà. Après, je pourrais vous donner ces éléments-là, hein, pour les avoir par écrit si vous voulez, mais il faut être très relatif sur ces classements. Alors, ce paysage-là est très différent du paysage anglo-saxon, c'est pour ça que je vais quand même un peu passer la parole à Marie. Non, tu voulais redire quelque chose, Annie?
Non, je t'en fais faire l'andouille.
Dans la mesure où Mais après, Annie pourra reprendre,
Non, non, parce que moi, j'avais ma liste, donc à la limite, on pourra en discuter. Et en tout cas, oui, pour dire que les outils pour retrouver ces revues, on en reparlera cet après-midi, vraisemblablement, et si ça ne suffit pas, on reviendra dessus.
Donc, simplement, oui, je voulais demander à Marie simplement de vous présenter, parce que le paysage est assez différent, donc, pour ce qui est des revues anglaises, qui... bon, je vais dire un mot méchant sur ces revues-là, juste, et puis après je la laisse démarrer, c'est que, pour beaucoup de gens, les revues anglaises, magiquement, sont des revues internationales.
14h45-17h.
Bon, pourquoi ? Alors, on pourrait se dire, bah, parce qu'elles sont connues internationalement et qu'elles ont des gens qui écrivent dedans, qui sont internationaux, etc. Bon, en fait, moi, je me suis amusé à regarder, à creuser, et je vais prendre cet exemple que je cite toujours, parce que c'est celui qui est le plus facilement compréhensible, la Harvard Educational Research Journal. L'accent, est classé dans les revues les plus internationales, les plus prestigieuses, dans tous les classements que j'ai vus. Bien. Donc on se dit, c'est une revue internationale. Alors j'ai essayé d'appliquer les critères internationaux de cette revue. Est-ce qu'il y a des non-américaines dans cette revue? Puisque c'est une revue, évidemment, de l'université de Harvard aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des non-américaines dans le comité éditorial de cette revue? Non. Est-ce qu'il y a des non-américains au comité scientifique? Non. Est-ce qu'il y a des non-américains dans les auteurs de cette revue? Quand je dis les auteurs, c'est, voilà, vous prenez tous les articles sur plusieurs années, est-ce qu'il y a un non-américain? Non. Est-ce qu'il parle des fois de sujets qui ne concernent pas l'Amérique? Non. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a d'international? Mais Harvard, c'est connu quand même. Hein. Ah bah oui, alors Harvard, c'est connu, donc elle est internationale. Donc, en fait, son seul caractère international, c'est sa diffusion. Et c'est, je pense que vous venez de nous écrire, Marie, c'est que Harvard, comme beaucoup d'autres revues américaines, est sur un gros bouclier de diffusion internationaux, tu pourras le dire après, tu n'es pas obligé de le dire tout de suite, qui assure une grosse visibilité effectivement aux travaux de langue anglaise et en particulier même à ceux qui sont le plus proches des centres commerciaux des gros éditeurs américains.
Donc Olivier a déjà tout dit.
Oui.
Non, c'est un exemple avec d'autres.
Non, 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 tu as tout dit. Donc, bon, l'idée, non, mais il a parlé à la fois de l'évaluation, il a parlé donc des types de revues qui pouvaient être importantes au niveau anglo-saxon. Donc, moi, je vais faire très rapidement, d'abord parce que j'ai pas envie de faire aussi un catalogue de toutes les revues que nous, ici, à la VST, on surveille. Parce que bon, c'est à la limite, ça sera plus intéressant que vous alliez voir vous-même quand vous serez en TP via nos abonnements à la bibliothèque directement à quoi ressemblent ces revues. Ce sera beaucoup plus simple. Par contre, je voulais, par opposition aux revues françaises ou francophones, faire quelques petites différences. Alors, évidemment, la publication en langue anglaise, bon, c'est une évidence, mais elle a son importance, exactement comme ce que disait Olivier. Le niveau international de la revue, sa reconnaissance est principalement due au fait que les articles sont en anglais. C'est voilà, donc c'est, bon, je le reprécise évidemment, mais c'était quelque chose qui est important. Il faut savoir que même des chercheurs français, des experts français, quand ils veulent avoir une diffusion un peu plus importante sur de leurs recherches, ils vont écrire en anglais. Moi, je pensais à Agnès Van Zanten ou à Marie Durubella, qui ont écrit dans des revues anglo-saxonnes. Elles sont... quand on parle de dynamisme de publication et de spécialisation, c'était surtout bon, ben, au niveau de la parution, tout simplement. Ils ont des revues qui paraissent beaucoup plus régulièrement et abondamment que la plupart des revues francophones. Certaines revues peuvent publier jusqu'à 6 numéros par an. Voilà. Donc quand on sait le travail que ça représente au niveau de la enfin des gens qui sont derrière tout ça, c'est assez impressionnant. Donc évidemment, il faut suivre. La spécialisation, donc Olivier, pareil, l'a mentionné tout à l'heure. Bon, bien entendu, il y a des revues très généralistes, mais il y a également un nombre incroyable de revues ultra spécialisées, ultra pointues dans des domaines vraiment très diverses. J'avais noté quelques exemples. des choses auxquelles, bon, nous on parle pas forcément, bon, beaucoup de revues par exemple sur les genres, hein, on l'a évoqué aussi hier par exemple, l'éducation des filles, des garçons, beaucoup de revues avec tout ce qui concerne les orientations sexuelles des élèves, c'est assez, bon, nous en France ça nous a, enfin c'est complètement, c'est pas quelque chose que nous étudions beaucoup. Tout ce qui concerne les différents types de minorités, etc., etc. Donc des problèmes auxquels ils sont confrontés beaucoup aux États-Unis notamment. Donc la spécialisation des revues est quand même très très importante. Vous le verrez également quand vous irez voir les différents portails d'accès à ces revues. Au niveau des de ce qu'on peut trouver, le type d'article est beaucoup plus, enfin permet beaucoup plus les échanges, les débats entre les experts. Donc on voit beaucoup d'articles et des réponses à des articles. Donc on a l'impression que la recherche avance. Enfin moi c'est cette impression que j'en retire quand on lit des articles où le débat est permanent. Donc ça c'est assez assez intéressant et toujours un peu aussi je pense assez différent des revues publiées en français. Le facteur d'impact, donc ça c'est pareil, ça c'est le truc d'Olivier. Voilà, je passe. Et donc l'autre point très important donc par rapport aux publications en français, c'est que l'accès est là en ligne. Alors pas gratuitement. Mais par contre, la quasi-totalité des revues ont un accès en ligne, avec accès article texte intégral, sous condition donc d'abonnement, très facile d'utilisation. Donc l'INRP passe par la plateforme EBSCO, il en existe d'autres. EBSCO vend des bouquets de revues. Ces bouquets, donc ces abonnements électroniques sont couplés à des abonnements papier. Donc on va retrouver les revues papier à la bibliothèque de l'INRP. Pas tous, hein, des fois il n'existe que l'abonnement électronique. Ça coûte plus cher d'avoir les deux. Donc pour quelqu'un comme moi qui veille sur les revues, c'est beaucoup plus facile que ce que fait Annie. Parce que j'ai tout en ligne directement, sans compter que ces plateformes proposent des services d'alerte, qui donnent tout de suite l'accès aux sommaires, les mises à jour des sommaires, etc. Donc on est très facilement alerté, très facilement, on veille plus facilement sur le contenu des revues, si on cherche un chercheur, un article en particulier, etc. Donc la reconnaissance se fait par IP, exactement ce que disait Rémi aussi ce matin. Donc tous les ordinateurs ici à l'INRP sont reconnus par la plateforme EBSCO et on a accès à l'ensemble des articles en ligne. Donc pareil, je reviens, mais Olivier en a déjà parlé, mais bon, c'est un peu l'idée parce que c'est son sujet. Les revues à comité de lecture, alors là, pour le coup, les revues auxquelles on a accès par EBSCO sont toutes, je crois, à comité de lecture, avec peer reviewed, etc. On a accès aussi à des revues donc qui sont très spécialisées, comme je disais tout à l'heure, où on reconnaît parfois donc des courants de pensée. On a parlé hier de l'école efficace, des enseignants efficaces, etc. Il y a carrément des revues qui sont là-dessus. Hein, donc c'est même pas des numéros spéciaux, ce sont des revues à part entière, hein, qui parlent d'effectiveness, de leadership, de management, etc. Donc encore une différence assez flagrante.
J'insiste là-dessus. Imaginez que pour le monde français, on ait une revue qui soit scientifique, c'est-à-dire une revue de recherche, qui soit exclusivement consacrée, par exemple, à la gestion des établissements éducatifs. Voilà. Qu'avec des articles de recherche là-dessus. Ou qu'on ait une revue qui se consacre à l'effet établissement uniquement écrite par des chercheurs et qui publie 5 à 6 numéros par an. Vous imaginez la différence d'échelle, c'est quelque chose de proprement inimaginable pour le monde francophone. Donc c'est ça aussi le défi intellectuel. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs qualité. Je discutais récemment avec une amie, bon, qui est au comité de lecture d'une revue prestigieuse pour la recherche dans l'enseignement supérieur, Higher Education, et qui me disait qu'elle recevait énormément d'articles. Elle était donc reviewer et elle recevait énormément d'articles de très faible qualité parce que comme ils arrivaient du monde entier, qu'elle est très lisible, n'importe quel jeune chercheur du fin fond du monde se sentait autorisé à proposer des articles à Aeon Education, et donc ils avaient une masse monumentale de manuscrits sans filtre vraiment préalable, et bon, c'était un travail pas évident.
Alors moi je reviendrai sur les avantages que ça représente pour les gens qui font soit de la veille, soit de la recherche, c'est qu'il y a une visibilité beaucoup plus importante. Donc on peut facilement, grâce à ces revues ultra spécialisées et leur comité de lecture, repérer les experts, repérer tous ceux qui écrivent le plus souvent. Donc la visibilité est bien plus flagrante que les experts qui publient en langue française. Donc ça c'est un avantage. Pareil, pour toutes les bibliographies qui sont à la fin des articles, contrairement à ce que disait Olivier, on retrouvait uniquement le petit cercle d'amis de celui qui publie. Là, par contre, les bibliographies sont plus pertinentes, elles sont plus vastes, elles vont au-delà du cercle restreint du chercheur. D'où ensuite l'importance de la citation et du repérage par rapport aux facteurs d'impact. Donc voilà, je vous ai parlé de la plateforme d'accès EBSCOhost. Donc je rentre pas dans le détail. Hein, nous c'est notre plateforme. Il en existe d'autres. Je rentre pas non plus dans le détail des bases de données qui donnent accès aux articles en ligne ou au moins aux résumés d'articles, puisque Annie va en parler cet après-midi. Je reparle donc de Eric qui reste incontournable en termes d'accès aux ressources et donc aux articles des revues, mais ça on reviendra plus tard certainement. Rapidement, parce que bon pareil, j'ai pas voulu trop lister parce que sinon on n'en sort pas. Les principaux éditeurs qu'on retrouve pour les revues anglo-saxonnes. Donc beaucoup d'éditeurs britanniques, des éditeurs américains, je les ai pas tous mis. À part Elsevier qui est l'exception qui confirme la règle. Moi je constate beaucoup ces éditeurs là, je veux dire, dominent le monde de l'édition des revues. Donc c'est pareil, en allant sur leur site, hein, vous pouvez voir le nombre incroyable de revues dans le domaine de l'éducation qui publient. J'ai listé quelques revues, parce que il y a quelques incontournables, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Donc là, c'était juste pour vous donner une idée. Alors, elles ont toutes à peu près le même nom. Il y a British Education dedans et bon, voilà, et Journal. La British Education Research Journal. Donc voilà, d'en parlait Olivier, dont on se sert nous pour qui était un bon, comment dire, dont on se sert pour cartographier les thématiques émergentes. Enfin, qui nous paraissent nous émergentes. C'est vrai qu'à travers ce journal, on a un bon aperçu de ce qui se fait en matière de recherche. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc je rentre pas dans les détails. Ce sont des revues que vous pourrez aller voir directement, leur sommaire et les résumés d'articles ou les articles directement en ligne, sachant qu'évidemment, faut lire en anglais. Les revues européennes, donc ça c'est quand même aussi important qu'ils se disent, donc européennes, mais comme c'est européenne, anglo-saxon. Donc voici les principales. Évidemment, la European Educational Research Journal qui est la grosse revue, qui n'est plus, elle l'a été, je crois, au début en accès libre, mais maintenant. Les anciens numéros, mais maintenant elle est en ligne, mais pas en libre accès, toujours pareil. Sauf si vous êtes membre de l'association, je crois que ça fait partie des conditions. Voilà, donc et la Scandinavian, alors elle mérite d'être mentionnée parce que la Scandinavian Journal of Educational Research donc regroupe les chercheurs, enfin les articles de chercheurs du monde, des pays scandinaves. Elle est très bon, elle produit énormément de choses. Nous, c'est intéressant d'avoir des chercheurs autres que des chercheurs anglais, australiens ou canadiens, mais bon.
Je voudrais aussi que tu rajoutes dans cette liste la revue de Sultana, qui vient d'être mise en ligne maintenant.
C'est vrai.
C'est pour ça que c'est assez intéressant que ce n'était pas encore diaporama, parce que c'est quand même tout récent. Sultana, c'est un chercheur chypriote.
Pardon ?
Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. Mais en gros, c'est quelqu'un qui a essayé.
Chypre,
de... Qui a essayé de structurer la recherche, bon, en gros, de tous les pays qui sont autour de la Méditerranée en éducation. Et qui a lancé une revue qui a études méditerranéennes dans le titre, pour que vous la retrouviez. Cette revue vient de la mettre en ligne. C'est très intéressant. Alors, c'est en anglais, parce que l'anglais est devenu une voix franca, à un moment donné, on parle une langue commune. Et il vient de la mettre en ligne, et ça, c'est assez intéressant pour avoir, je dirais, le pendant au sud de la Scandinavian Journal au nord. Bon, je donnerai la référence, mais en pointe, vous tapez Sultana Mediterranean Research Education, ça serait bien diable si vous ne tombez pas dessus. On vous donnera l'adresse plus tard.
Vas-y. Oui, alors moi, je voulais juste dire, quand on fait comme ça une recherche dans les revues en anglais, donc on part sur une note de synthèse à faire sur... par exemple, la formation des enseignants, et on utilise une base de données, je reviendrai sur l'usage des bases de données cet après-midi, et on tombe, bien entendu, sur une foultitude d'articles, mais alors issus de la revue Principal, qui est à l'usage des principaux de collège ou d'école, enfin bref, et surtout, on a la situation qui se passe dans l'école George Washington, de la petite ville XY du Minnesota sud, voilà. On a beaucoup d'articles, mais beaucoup d'informations très pointues. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on est obligé de faire une espèce de tri. Alors, ça peut être intéressant, mais on ne peut pas être exhaustif, puisque là, on a vraiment une focale beaucoup trop restreinte. Quoi. Mais c'est assez drôle, des fois.
Et là, c'est très important ce que vous dit Annie. Elle vous montre un peu pourquoi cet exposé, on n'a pas listé des revues, pourquoi on a essayé de vous expliquer, en gros, la logique qu'il y a derrière. C'est qu'à un moment donné... Quand on tape un mot-clé qui est un peu trop gros, qui nous ressort trop d'informations, donc trop de bruit, comme on dit quand on est quoi ?
Documentaliste. Si tu parles à un certain nombre de documentalistes. Je sais pas d'origine.
Bon. Quand il y a trop de bruit, il y a un moment donné, il faut un peu reconnaître le champ et on se répère à deux, trois titres, au moins pour commencer. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir qui a écrit sur ce thème dans la British Educational Research Journal en disant il y a une grande chance qu'avec cet article et en regardant les références bibliographiques de cet article, on tombe sur des recherches qui soient pas trop américano-centrées, pas trop spécialisées, un peu reconnues dans le monde académique, etc., etc. Et pareil pour la France. Quand on voit que tel sujet a été traité dans la revue française de pédagogie, on va y jeter un coup d'œil, on regarde la bibliographie et ainsi de suite. Vous voyez, le raisonnement, il est à chaque fois, c'est pour entrer dans un sujet... prendre un peu ses marques. Ce qui ne veut pas dire, dans un second temps, on ne va pas chercher des choses plus innovantes dans des revues moins connues et tout ça, mais il y a un moment donné, il faut bien commencer à tirer le fil quelque part et à redonner. Ce n'est pas exclusif, monopolistique. La revue British Educational Research Journal, qui pour nous est souvent une revue de référence, il faut bien savoir que c'est la revue de la British Educational Research
Association
anglaise, et que certains chercheurs anglais ne sont pas dans cette association parce qu'ils estiment qu'elle ne convient pas, qu'elle est trop ci, qu'elle est trop ça, etc. Et ils restent en marge de tout ça. Bon, c'est le cas de Roger Dell, par exemple.
Ah oui, bien sûr. Mais qui a fait sa propre revue.
Voilà, et qui est coordinateur du réseau NES quand même. Hein, donc, mais voilà, aucun raisonnement monopolistique, mais c'est une façon quand même de... une démarche qu'on essaye là, de vous faire comprendre à travers cette question des revues.
Donc voilà, donc pour terminer, donc c'était pareil, j'ai listé quelques revues américaines, mais bon, le champ est tellement vaste que j'ai choisi donc de remontrer le Educational Researcher parce que c'est une des revues, je vous signale qu'ils en publient six, en fait, l'American Educational Research Association, ils en ont pas une, ils en ont six. dont celle-ci, avec bon, que des problématiques très très bon, qui se veulent généralistes, mais quand même très très américaines au niveau des problématiques. L'Economics of Education Review, qui est quand même une revue phare au niveau de l'économie de l'éducation, avec beaucoup de bonnes références. Et puis l'American Journal of Education, qui reste... alors là, pour je pense que c'est en ligne et en libre accès. Alors, nous, on ne sait plus trop, parce qu'avec nos ordinateurs, on a accès directement aux articles. Après, on ne sait plus si elles sont passées payantes ou pas. Parce qu'ils nous, ouais, voilà, ils nous reconnaissent partout. Voilà, merci.
Alors, si on veut compléter, par exemple, pour donner un exemple aussi, sur la richesse, la diversité ou l'essaimage des revues anglo-saxonnes, par exemple, sur la formation des enseignants, on a Teacher Education, Teaching and Teacher Education, etc. etc.
On s'est décliné.
Sur... Voilà. Alors, j'ai aussi, hein, je vais tricher, on a aussi Science Teacher Education. Ça, c'est juste pour ceux qui tomberaient sur le sujet. On a Science and Education, on a Studies in Science Education, on a Journal of Learning Science, on a International Journal of Science Education, etc., etc., etc.
Et pareil pour toutes les revues qui parlent de l'enseignement supérieur.
Hein? Aussi,
bon voilà, courage.
Ça se décline, ouais.
Pour peut-être revenir à Annie, si tu veux redire un mot, justement, tu es partie sur Teacher Education, c'est amusant de voir qu'en revanche, dans le monde francophone, on a
une revue
qui s'occupe spécifiquement de formation des enseignants. Nous, on n'en a qu'une. Et alors, une grande différence, Marie, tu en parles souvent, là, tu ne l'as pas dit dans ton exposé, c'est la différence, tu l'as pas dit au début, mais je pense que ce n'était pas clair pour nos collègues, c'est la différence de format de présentation des articles. Essayez d'expliciter la différence entre un article en général dans ces revues en anglais et en français.
Alors, l'intérêt voilà, de ces articles, bon, outre, une fois passé le fait qu'il c'est en anglais, l'article est toujours très très bien en général. Très très bien conçu. Le résumé est un vrai résumé, hein, ce qu'ils appellent leur abstract. Il suffit souvent de le lire pour avoir globalement le contenu de l'article. Ensuite, le contenu de l'article suit un plan donné par le rédacteur de l'article, avec une progression dans les résultats de la recherche qu'il souhaite démontrer. Et il est complété par une bibliographie, donc je disais tout à l'heure, qui en général nous permet d'ensuite de balayer le sujet grâce à cette bibliographie. Dans NES, tu en as parlé de NES, je sais pas. Nous, c'est un peu comme ça qu'on procède. C'est on repère les grands noms de certains chercheurs dans le domaine et on s'appuie énormément sur leur bibliographie pour compléter le sujet, parce qu'elles sont vraiment un outil qui nous permet d'élargir la recherche. C'est flagrant dans quasiment
Oui, c'est la présentation des ouvrages. Alors, j'ai un peu décroché à un moment, mais ce qu'il y a, c'est que surtout les articles présentent toujours la méthodologie, le background théorique. Enfin, c'est d'abord le background théorique, puis la méthodologie de la recherche, puis ensuite la recherche elle-même, les résultats de la recherche. Et finit toujours, juste avant une courte conclusion, par une discussion. Alors c'est vrai que souvent la conclusion, elle se termine systématiquement par « il faudrait compléter nos recherches ». Alors on sent que derrière, ils ont besoin de sous pour continuer les recherches. Donc c'est un petit peu la phrase finale. Mais en tout cas, il y a toujours cette structuration de l'article qui nous amène. Donc on a, alors ce qui est intéressant aussi pour nous, le background, comme ils disent, théorique. C'est-à-dire que là, on a des éléments
d'où ils sont partis,
où on peut rebondir. La méthodo, bon, à la limite, on passe, surtout que souvent, ça peut être très statistique et autres. La discussion qui peut être intéressante, parce que là, nous, on va puiser un certain nombre d'informations, et bien entendu, la conclusion qui peut nous permettre de rebondir.
Et l'invitation au débat sur la question.
Débat, ouais. Alors, il y a un certain nombre d'articles, enfin, en France, on arrive à retrouver, mais c'est surtout, moi, je trouve, dans les contributions à des colloques ou autres, où les chercheurs qui présentent suivent un petit peu le même canevas. Ça vient de plus en plus, hein, quand même. Mais...
Pourquoi c'est intéressant, et au point de vue intellectuel, et au point de vue de la marge d'investigateurs scientifiques, c'est parce que ça permet de repérer vite, mais surtout, effectivement, ça permet d'introduire un peu de cumulativité dans la recherche en éducation. Et là, je reboucle avec la première journée qui était un peu théorique, c'est que dans le monde francophone, on avait souvent la tradition d'avoir des articles très littéraires, très bien écrits. Les articles en anglais sont souvent beaucoup plus pauvres au niveau de la langue. Ça tombe bien, c'est plus simple pour nous pour les lire. Mais ils sont souvent beaucoup plus pauvres. Les articles français sont souvent très littéraires, mais donc avec beaucoup d'effets de style, des titres très longs, parfois qui sont totalement énigmatiques, des résumés qui parfois sont des introductions plus que des résumés, et des articles qui sont... qui vont et viennent, et dont je dirais il faut lire tout l'article et parfois même le relire pour comprendre même de quoi il était réellement question. Et des articles qui souvent qui quasiment jamais ne se répondent les uns aux autres explicitement. Il faut être du milieu pour comprendre que tel article répond à un autre. Alors qu'il n'est pas rare dans des revues de langue anglaise de trouver en réponse à machin, mais y compris explicitement comme sous-titre de l'article, et avec parfois des polémiques qui s'étalent sur plusieurs années, et où on cite dans la bibliographie les arguments opposés. Alors qu'en France, très souvent, il faut très bien connaître le champ pour le reconstituer, parce qu'on a machin qui a telle vision qui ne va citer que les gens avec qui il est d'accord, qui ne va jamais citer la personne de l'autre bord, et inversement, et surtout on ne se parle jamais directement. C'est plutôt du fait d'aucuns diront, ou certains, et puis à vous de débrouiller avec certains. On ne sait pas qui est certain. Alors quand on est du milieu, on le sait, parce que comme en gros il y a 10 chercheurs sur le même champ, bon ben on se reconstitue, mais quand on est comme nous au début, comme on était au début de la VST, on ne connaissait pas trop le champ, des fois on restait, alors que les Anglais sont beaucoup plus explicites, contrairement à ce que dit monsieur Truc, je pense que, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a affirmé, page, champ, etc.
Ça a été encore plus flagrant quand on essaie, notamment pour les documentalistes justement, quand on essaie d'indexer un petit peu le contenu d'un article. Autant les articles anglophones, c'est relativement simple, on peut trouver tout de suite les mots clés et décrire l'article facilement. Autant dans un article français, Olivier en a fait les frais. Des fois, il trouve pas le mot clé. Du moins, il n'y a pas de, c'est pas aussi clair que pour un article en anglais. Donc ça, c'est pour nous, donc le travail est quand même, malgré la barrière de la langue, est quand même beaucoup plus facile.
Est-ce que l'importance de la citation de l'auteur peut avoir des incidences par rapport à ça? C'est-à-dire que si moi j'écris un article, il y en a un avec lequel je ne suis pas d'accord, si dans la validité de l'importance, il y a un poids à la nomination de la personne, est-ce que ça va avoir des incidences?
Bien sûr.
Ce que vous voulez dire, c'est que les auteurs français qui ne citent pas leurs ennemis, non, en plus font exprès.
Ça, c'est pas vrai. Alors, ça serait méchant parce que comme justement en France, on n'utilise pas encore vraiment les indicateurs quantitatifs, index de citation, facteur d'impact des journaux, etc. C'est pas du tout pour ça. Mais en revanche, là, vous soulevez un autre aspect, c'est que dans les mesures quantitatives des citations, c'est un biais relativement connu qui est très amusant. C'est la popularité paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a deux façons pour être très haut placé dans les indices de citation. C'est soit d'être très cité parce qu'on a dit quelque chose de très intelligent que tout le monde reprend, soit d'avoir dit une grossièreté telle que tout le monde la cite sans la dénoncer. Bon, mais c'est moins fort dans le champ de l'éducation que dans le champ des sciences dures. Mais c'est un effet paradoxal et qui est très 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 amusant. Toujours sur cette question-là... qui me semblait aussi importante de souligner par rapport aux revues françaises, c'est tout ce qu'on vient de dire. Hein. On l'a répété souvent, mais je crois qu'il faut le redire. Ça peut être lu comme des critiques contre les revues francophones, ce qu'on vient de dire là sur la présentation. C'en est en partie. Mais attention, ce n'est pas un jugement sur la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des grandes avancées de recherche en sciences humaines et aussi en éducation qui ont été faites par des sauts. J'allais dire paradigmatique, mais je cherchais un mot plus simple, mais par des sauts théoriques, par des ruptures théoriques qui ne sont pas forcément passées par des méta-analyses de toutes les recherches précédentes, etc. C'est à un moment donné quelqu'un qui a une intuition, qui a fait une recherche sur le terrain qui lui a permis de la valider et qui a apporté un éclairage nouveau, qui a changé la perspective sur toute une question. Donc les recherches francophones, de ce point de vue-là, sont aussi très prolifiques et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature anglaise qui n'apporte pas grand-chose non plus. Hein. C'est pas simplement...
Non,
mais bien comprendre notre débat sur la perspective de la structuration de la communauté de la recherche et de la clarté pour accéder à cette communauté de recherche. C'est-à-dire qu'on veut essayer de dire, c'est que surtout la recherche en éducation française est souvent un monde de croyants et je dirais même un clergé. C'est-à-dire qu'il faut en être pour comprendre. Alors que la recherche en éducation en anglaise est plus souvent quand même un monde où même le profane, avec un tout petit peu d'initiation, mais pas grand-chose, peut assez vite se repérer. Bon, alors... l'avantage en recherche en éducation française, une fois qu'on est dedans, alors là ça va, puisque comme c'est pas énorme, on s'y reconnaît assez vite. Mais bon, des fois c'est vrai qu'à premier aspect, ça peut être plus compliqué. Il y a beaucoup de non-dits et d'implicites.
Oui, mais moi tu vois par exemple sur la formation des enseignants, j'avais assez de matière dans le monde francophone. Bon, j'ai croisé avec l'international histoire de conforter les idées, mais c'est vrai que c'est confortable quand même, hein, le francophone.
Alors, si, excusez-moi, un domaine que. C'est ta diapo qui m'amène dessus, je suis désolé. Quelque chose dont je n'ai pas trop abordé. La question des revues de vulgarisation. Et plus généralement de toutes les autres revues qui ne sont pas comités de lecture.
Qui était la dernière diapo que je n'ai pas montrée.
Ouais. La recherche en éducation, donc, on a beaucoup parlé des revues à comités de lecture qui visent essentiellement un public universitaire. Si vous. Par rapport à ce que j'avais dit la première journée, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là, mais sur la liaison très puissante entre la recherche, le système éducatif, les praticiens et les politiques éducatives, il est évident que toutes les recherches ne sont pas dans des revues strictement académiques et que beaucoup de résultats de la recherche sont diffusés ailleurs. Alors ça peut être dans des revues grand public, y compris comme sciences humaines. Bon, je dis plus le monde de l'éducation, ça n'existe plus. Enfin, bon, c'est plus vraiment une revue. Ça peut être dans des revues qui ne sont pas à grand public, mais qui sont des revues un peu militantes au niveau pédagogique. Je pense notamment en France, les cahiers pédagogiques. Ça peut être aussi dans des revues comme la revue, justement, internationale de l'éducation de Sèvres, la revue du CIEP, qui est de très grande qualité, parce que c'est des gens qui sont scientifiquement très solides, mais qui décident de constituer à chaque fois un dossier thématique avec des articles venus un peu de toute la planète. Tous ces endroits-là n'ont pas la même valeur que les autres pour des raisons strictement académiques, mais pour qu'on cherche réellement des idées, des textes, des références qui sont bien écrites et qui sont souvent de valeur, ça peut être des endroits très intéressants pour les piocher. J'en ai cité quelques-unes, je pourrais en citer beaucoup d'autres, de revues de praticiens, etc. Et c'est vrai aussi pour d'autres choses qu'on va voir, comme des actes de colloques, des conférences, des séminaires ou des rapports gouvernementaux. Donc ça n'épuise pas la chose. Merci Ali d'avoir remis ceci. Par exemple, il y a une revue remarquable en France qui s'appelle Administration et éducation, qui est très difficile à trouver parce que alors là, elle existe qu'en papier et que c'est pas évident de toujours trouver les références, et qui est une revue faite par essentiellement des inspecteurs généraux, il faut bien le dire, et des chefs d'établissement du second degré. Mais à chaque numéro, ils mobilisent des experts du système éducatif et des chercheurs autour d'une thématique. Et je sais que récemment, j'avais voulu relire des choses sur certains thèmes. Et ben en fait, j'ai trouvé dans leur revue un appui plus costaud que ce que je trouvais ailleurs. Bon, parce que c'était particulièrement bien fait.